Bouchard en parle, présenté par Jean Lelièvre. Éliminez vos dettes sans faire faillite, c'est possible. Jean Lelièvre, autorisé en insolvabilité. Visitez jeanlelièvresyndic.com.
15h07, je suis très heureuse de parler à notre prochaine invitée parce que c'est quelqu'un que je connaissais pas, un gars de Québec que je ne connaissais pas, mais qui nous a fait briller dans un gala très, très prestigieux cette semaine. Il s'appelle Alexandre Deslauriers. C'est un artiste maquilleur d'ici, de Québec, qui a même déjà eu son petit studio dans Saint-Roch, okay. Qui habite maintenant à Toronto pour le travail. Et il a remporté cette semaine un prix prestigieux au gala Beauty Under 40, qui est présenté par l'Association de beauté ABA. Et sa carrière l'a amené partout dans le monde. Puis jusqu'à maintenant, il a eu l'occasion de maquiller des artistes internationaux, des artistes d'ici, du Québec et les plus grands mannequins de l'industrie. Alors, vous pouvez vous douter que j'ai bien des questions pour lui. Alexandre Deslauriers, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour Elisabeth, ça fait plaisir.
Alexandre, pour commencer, juste expliquer aux auditeurs, qu'est-ce que c'est exactement l'association ABA puis le gala auquel le gala où tu as remporté un prix? Là, c'est quoi l'importance que ça a dans votre industrie?
Oui, bien sûr. Donc, l'ABA, c'est intéressant puisque ça relie tous les paliers de l'industrie. Donc, autant les coiffeurs, les barbiers, les maquilleurs, les esthéticiennes, massothérapie, mais aussi les distributeurs et les manufacturiers. Donc, vraiment, ça nous représente. Donc, c'est comme une ordre, si on veut.
OK. Là, tu viens de Québec. Il y a peut-être des gens qui te connaissent parce que tu as déjà eu ton propre studio juste ici, dans Saint-Roch. Ta carrière, oui. Elle a débuté de quelle façon? Qu'est-ce qui t'a amené dans Saint-Roch, dans ton studio, puis éventuellement partout dans le monde à maquiller les plus grandes mannequins de l'industrie?
Ben oui, tu vois, moi, j'ai commencé ma carrière, si on veut, à 13 ans. Lorsque j'ai découvert la photographie, je trouvais que c'était vraiment un médium, surtout la lumière, qui me plaisait. Alors, j'avais transformé le sous-sol chez mes parents en chambre noire. Donc, je faisais les photos la fin de semaine. J'étais très populaire à l'école pour ça, parce que tout le monde avait envie de se faire photographier.
Tu sais? Ah oui?
Alors, je développais...
T'as là à quelle école,
donc,
hein?
Je développais. Moi, j'allais au Compagnon de quartier.
Okay. Hey, moi aussi, j'étais là. Rouge,
ouais. Ben oui, ah, c'est peut-être la même année.
Je sais pas, t'as fini à quelle année, toi?
Écoute, j'ai 36 ans. J'imagine que j'ai fini vers 2002. Je ne sais pas
okay,
tout à fait
bon,
sûr.
J'ai fini en 2005.
Fait que ah, c'est peut-être croisé.
On s'est peut-être croisé. Ben, ouais. Oui, on peut savoir croisé. Parce que, justement, quand ils ont vu que je faisais des photos à l'école et que je maquillais aussi, parce que je me suis dit... qu'est-ce que je peux faire pour amener ma photo plus loin? Alors là, je me suis dit, le maquillage, ça pourrait améliorer ma photo, c'est sûr. Donc, quand ils ont vu que je faisais aussi le maquillage à l'école, au secondaire, j'ai commencé à maquiller dans les défilés de mode, les pièces de théâtre, et j'ai même fait ça dans 5 écoles. Donc là, j'avais vraiment une situation pour finalement prendre de l'expérience assez rapidement. Et donc, j'ai... fini ma graduation, j'avais un studio dans le sous-sol chez mes parents. Mm-hmm. Et puis, j'ai commencé à avoir des contrats assez importants, puis travailler avec des célébrités. Puis là, je me suis dit, mais ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas amener une célébrité à la maison, là, chez mes parents. La première fois que Nanette Walkman, elle est venue chez mes parents, ma mère est restée surprise, là, je n'attendais pas à ça.
Ah oui?
Donc là, je me suis dit, peut-être que je pourrais avoir un studio, ce serait le bon temps. Tu sais. Alors, j'ai choisi le quartier Saint-Roch parce que je trouvais que c'était un quartier qui était tout à fait en développement puis qui avait quand même quelque chose de très cool et urbain.
Ah, fait que là, ben oui, c'est vrai, puis ça l'est encore d'ailleurs. Ça s'est beaucoup développé, Saint-Roch. Fait que c'était...
Ben oui, ça s'est développé. Puis tu vois, je me souviens même... il y avait encore une partie du mur qui ont démoli. Moi, j'avais quand même un studio assez énorme, là. C'était 5000 pieds carrés. Donc, ça aussi, c'est un choix parce que je me suis dit, je vais le faire assez gros, assez impressionnant que même les gens de Montréal vont descendre puis ça va être tout à fait logique pour eux de faire ça.
Et Alexandre, quand on fait ton métier aujourd'hui, on arrive à se faire connaître un peu partout dans le monde avec les réseaux sociaux, avec Instagram, entre autres. C'est comme ça qu'on peut montrer notre travail, qu'on monte un petit peu notre portfolio et le monde entier a accès à notre compte, là. Mais toi, quand tu essayais de percer, si tu as 36 ans, on sentait que les réseaux sociaux, c'était un petit peu moins là à l'époque. Comment ça fonctionnait pour se faire connaître et commencer à prendre de l'ampleur un peu partout dans le monde comme ça?
Ah, c'est vraiment une belle question parce que c'est drôle. Des fois, quand je fais des conférences, les gens me disent ça. Ils disent, est-ce que toi, tu as appris à maquiller sur YouTube? Puis je dis non, YouTube, ça n'existait pas. Puis c'est pas une bonne façon d'apprendre non plus. Je crois que le secret, c'était vraiment le bouche à oreille. Hein. Chaque personne que tu rencontres qui gravite autour de toi va pouvoir parler de toi à quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment souvent ça. Il y a des gens qui ont suivi ma carrière pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, même encore aujourd'hui, qui eux-mêmes avancent dans leur propre carrière, puis avancent, puis disent « Ah ouais, j'ai quelqu'un que je connais, attendez, je vais vous parler. » Puis maintenant, avec la chance, parfois, c'est cette personne-là, elle va parler de moi. Et puis l'autre personne, elle va dire « Ah ben oui, justement, je le connais. » Bon, parfait, c'est réglé, appelle-le, puis on le signe.
Ah, c'est plus compliqué, donc, par exemple. C'est plus long un peu comme processus.
Oui, c'est beaucoup plus long, je te dirais, comme processus. Et c'est pour ça que dans les dernières années avec Internet, c'est sûr que le rythme de la vie aussi hein, a augmenté.
Ouais, c'est vrai.
Donc tout va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus facile d'une certaine façon.
Comme ouais. Ça. Là, Alexandre, je veux pas que tu me nommes de nom en tant que tel, mais bon, tu as travaillé quand même avec de nombreux artistes québécois, Mitsou, Rock Voisine, Alec Wartman, pour ne nommer que ceux-là. Et tu as travaillé aussi avec de nombreux artistes à l'international. Pour en avoir déjà entendu parler, je sais que des fois, c'est pas toujours facile de travailler avec des personnalité publique, puis c'est pas tout le monde qui se font nécessairement bien traiter. Est-ce que c'est quelque chose que tu as trouvé difficile quand tu as commencé à entrer dans ce monde-là où il y a quand même beaucoup d'égo?
Je te dirais que j'ai été assez chanceux parce que moi, je voulais pas nécessairement rentrer dans le monde des célébrités. Moi, je voulais être un bon photographe, un bon maquilleur, donc je faisais mes choses. Et quand j'ai commencé à travailler avec les célébrités, ils ont vu des choses en moi, autres que le maquillage et la photographie, puis ils m'ont vraiment donné des opportunités. Quand je pense à Martine Sinclair, qui un jour me dit, « Mais Alexandre, toi, quand tu construis tes séances photo, t'as vraiment une vision de la lumière. T'aimerais pas ça faire la conception d'éclairage de mes shows au Festival Montréal à Lumière? » Alors, ils m'ont donné beaucoup d'opportunités avec Nanette Walkman. Elle trouvait que j'avais une bonne négociation quand je travaillais. Et puis, elle me dit, tu aimerais pas ça partir en tournée avec moi en Europe? Alors, je suis allée en Europe. Alors, je n'ai pas vraiment, c'est m'est arrivé une fois que j'ai eu une mauvaise expérience. Okay. Et c'était avec une artiste internationale.
Ah oui? Ouais. Elle avait pas, était pas très très polie, mettons, ou
Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. C'était donc j'ai passé 3 jours avec elle parce qu'on était en promotion et c'était pas juste avec moi là, avec son manager, avec. C'était pas quelqu'un qui était très gentil, je trouve. Ouais.
Ok. Est-ce qu'il y a des différences dans la façon de travailler entre travailler ici au Québec avec des artistes d'ici au Québec et à l'international? Parce qu'on a tendance à voir l'international comme quelque chose qui a beaucoup, beaucoup d'ampleur. Puis c'est le cas aussi, là. Mais tu travaillais quand même avec les plus grands mannequins du monde. De quelle façon différente on travaille avec quelqu'un qui a une ampleur comme un grand mannequin international versus ici au Québec?
Je dirais que les mannequins internationaux, c'est très particulier parce que souvent, on va me poser la question que tu m'as posée avec les célébrités. OK, est-ce que c'était qui était plus diva ou qui était plus compliqué?
Ouais.
Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les mannequins sont vraiment pas comme ça.
Ah,
les
ouais?
mannequins, c'est un, si on veut, c'est un porte-manteau. Donc, c'est pas une chanteuse, c'est pas, donc on n'est pas obligé de l'engager, si on veut. On l'engage parce que elle est gentille.
Ah oui, je comprends.
T'sais?
Ok, ouais. Hein? Ouais, c'est vrai.
Donc c'est vraiment important. Donc ils ont tout intérêt à être humble puis agréable parce que dans mon travail, c'est comme si c'était ta première journée de job. Donc c'est toujours stressant. La mannequin, tout le monde est un peu stressé parce qu'on doit créer quelque chose qui n'existe pas, une séance photo. Donc, il faut qu'on soit tout ouvert, on soit tout intéressé, on est très gentil, tout le monde. Et surtout, à 6h du matin, lorsque je maquille la mannequin, il faut qu'elle ait quelque chose à dire pour m'inspirer, parce que sinon, ça va être plate. Donc, ils sont souvent très, très, très gentils. Pour répondre à ta question, je pense que ce qui est le point similaire que je trouve entre l'international et le Québec, c'est vraiment le souci de bien faire les choses, la précision. Moi, c'est ce que j'ai vraiment remarqué, d'avoir ce sens-là d'être capable de voir des choses que les autres voient pas, puis d'avoir un souci du détail qui est très, très, très pointu.
Excellent. Ben Alexandre Deslauriers, ça m'a fait plaisir de te parler aujourd'hui, puis félicitations pour ton prix au Gala Beauty Under 40, puis je suis convaincue qu'on va continuer à entendre parler de toi.
Ben, t'es très gentil, t'as des très belles questions, c'est un plaisir.
Merci beaucoup, à la prochaine. Alexandre Deslauriers est artiste maquilleur d'ici de Québec. Il habite maintenant à Toronto pour le travail. Alors, c'est un artiste maquilleur de renommée internationale qui a gagné un prix cette semaine, un prix assez prestigieux là, dans le domaine de l'art et de la beauté. Fait que c'est le fun de voir que le Québec peut briller comme ça dans un gala qui a autant d'importance partout en Amérique du Nord. Il est 15h16.
Vous en parle maintenant au retour. Jusqu'à 18h, vous écoutez Bouchard en parle.
Bon, il est arrivé un événement assez... Au départ, je l'aurais qualifié de cocasse parce que c'est très, très drôle.
Surprenant,
c'est le bon mot. Surprenant. Dans l'émission de notre collègue Bernard Drainville à Montréal. Bernard faisait une ligne ouverte, si je ne me trompe pas, sur justement le sujet de la pub de Maxi avec Martin Matt, le sujet sur lequel on ne reviendra pas. On en a parlé abondamment. Mais donc, c'était une ligne ouverte. Puis tu sais, Jean-Simon, que le danger des lignes ouvertes, c'est qu'on ne sait jamais sur quel type de personne on peut tomber. Puis surtout, on ne sait jamais ce que la personne va décider de nous dire une fois rendue en onde.
Absolument.
Et je pense que Bernard l'avait pas vu venir, celle-là. Je pense que Bernard a dû être très, très surpris. Alors, c'est une dame qui a téléphoné pour donner son opinion, probablement, sur la pub de Maxi.
C'est ça.
Et ça a fini, en fait, en critique sur le physique de Bernard. Écoute, on va écouter ce que ça a donné.
Sabrina, bonjour.
Oui, bonjour, M. Bernard.
Bonjour, Mme Sabrina.
Oui, moi, je vous ai vu à Radio-Canada récemment. Et puis, j'ai toujours trouvé que vous étiez un homme très beau, mais là, depuis quelque temps, vous avez pas juste une bedaine, là. Vous avez le dessous de la gorge qui commence à exploser. Ça, automatiquement, ça, c'est de l'embonpoint. Puis moi, je suis contre les gros, parce que je me dis, imaginez-vous donc... Dans les CHSLD, aujourd'hui, on change les gens à la couche, on les lave, tout ça. Imaginez-vous dans le futur, là, ça... les gros, ils vont faire, les gros, ils vont puer davantage.
Sabrina, arrêtez, là, wow. Là, c'est pas une blague, là, OK, je vous le dis, là. Sabrina, vous m'avez vu récemment à la télé. Puis oui. Vous avez trouvé que j'étais devenu trop gros, là. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Vous êtes en train de me traiter de gros, là.
Oui, mais vous êtes pas gros, là. Mais vous êtes... Avant, je vous voyais à l'Assemblée nationale avec Mme Marois. Vous étiez beau, élégant. Je vous ai toujours trouvé beau. Je me disais, mon Dieu, j'aimerais ça avoir un homme dans ma vie comme ça, dans mon lit. Hey, bel homme. Mais là... Récemment, quand je vous ai vu à Radio-Canada, mon Dieu, là, j'ai dit, il commence à avoir une double gorge. Oh, ben non. Monsieur Drainville, je vais être honnête avec vous, puis ça, je vous dis.
Mais là, je trouve que vous l'êtes pas mal.
Les gens qui sont gros, là, quand ils vieillissent, toutes les chairs tombent et c'est très laid.
OK. Sabrina, c'est gentil de m'avoir appelé. Vraiment, là, je l'apprécie vraiment beaucoup. Je vais réfléchir à votre message. OK? À la prochaine, là. C'est pas arrangé avec le gars des vues, là. Sabrina, je la connais pas, là. J'ai jamais parlé à Sabrina, puis c'est Sabrina, elle vient... C'est ça, là, je vais réfléchir à ça.
C'est drôle, hein?
Ça s'invente pas.
Non, ça s'invente vraiment pas.
Non, mais là, je ris
la
parce
madame
que...
est fantasmée sur Bernard, mais là, elle le trouve trop gros.
Non, mais honnêtement, là, je vais juste mettre les choses en perspective. Je ris parce que c'est vraiment très drôle, cet extrait-là.
Elle veut Bernard, plus dans son lit.
Bernard est bon joueur, puis il embarque là-dedans. Et Jean-Simon... Imagine l'inverse.
Ouais.
C'est moi l'animatrice radio ou n'importe quelle autre femme. C'est une femme qui anime cette émission-là.
Et moi, j'appelle en ligne ouverte.
Pour me dire que j'ai pris du poids, puis qu'avant, tu me désirais dans ton lit, puis à cette heure, je suis rendue grosse, puis j'ai la gorge qui tend, puis là, je suis plus belle pantoute. Ça ne passerait jamais. Jamais ça passe.
Oh, mais regarde, moi, j'aime mieux le prendre en riant. Je trouve que Bernard l'a bien joué. Là,
il a été très bon, Bernard.
Mais t'as raison que l'inverse se ferait totalement pas. Là. Ce serait absolument impensable. C'est une bonne piste de réflexion, t'as pas tort. Mais c'est très drôle. Puis ça, c'est un des plaisirs de la radio, c'est qu'on sait jamais ce qui va se passer exactement.
Ben non, puis je veux dire, à Montréal, ils filtrent les appels. Là. Ouais. Je suis convaincue que la Sabrina qui a appelé, elle a dit qu'elle avait une très, très bonne opinion sur le sujet, puis elle a dû inventer quelque chose au régisseur pour qu'il la mette en onde.
Elle voulait croiser Bernard.
Mais écoute, là, elle est allée dans les détails, puis oh mon Dieu, j'aimerais donc ça avoir un homme comme ça dans
les
ma vie.
Les chats qui pendent, puis tout le kit.
Mais pourquoi on se permet ça? Là, je veux juste parler du double standard. Ouais. Là. Je pense pas qu'il y aurait un homme qui oserait appeler à la radio une femme animatrice pour lui dire qu'elle est rendue grosse. Puis si quelqu'un oserait faire ça, sincèrement, c'est un dégueulasse.
Ramassé,
ouais. Vraiment. Mais comment ça se fait que Sabrina s'est donné le droit d'appeler Bernard pour dire ça? Puis tu sais, Bernard a bien réagi. Il va pas porter plainte contre elle, là. Puis il a été très, très bon joueur. En fait, il a réagi de la meilleure façon. Puis je suis convaincue qu'il a trouvé ça drôle pour vrai. Mais de quel droit Sabrina appelle Bernard pour y dire ça? C'est incroyable.
J'ai pas la réponse, Élie. C'est une très, très bonne question. Pourquoi on tolère ça, puis même on trouve ça drôle quand c'est un homme qui se fait... Peut-être parce qu'il n'y a pas vraiment de vulnérabilité chez les hommes, on s'entend. Puis c'est un peu le même principe, peut-être, Il y a plus de réflexion. Pourquoi t'es dans un club, une fille te pogne la crotch là, entre les deux jambes?
La, quoi?
La crotch.
C'est quoi ça, la crotch?
La crotch, c'est entre les deux jambes. Mettons, ta fille te pogne de même ou bien essaie de te frencher ou n'importe quoi. Au pire, ta tasse ou même t'es content si la fille te plaît, whatever, mais un gars fait ça puis c'est une agression. Il y a peut-être la question de la vulnérabilité, tu sais.
Oui, ça c'est sûr.
Moi, c'est une fille qui mesure 5 pieds 2, me saute dessus, nanana, puis tu sais, j'ai animé des mariages, je fais de la disco mobile, c'est arrivé des affaires bizarres, là, tu sais, avec des fins de soirée où des filles un peu trop sûres sont trop insistantes. Allez, je trouvais juste ça drôle. Mais, mais inverse, les choses, la fille est DJ, puis il y a un gars qui arrive, puis qui commence à la pognasser, il y a une menace réelle, tu sais. Je me suis jamais senti menacé d'agression par une fille ou quelque chose comme ça. Peut-être que la même logique s'applique un peu pour ce qui est des commentaires, puis de juger l'apparence physique, c'est-à-dire une certaine. Mais même en disant ça, je veux dire, c'est un peu du sexisme que je vais dire, parce que je vais dire une certaine vulnérabilité. Parce que,
non, vois, mais il y a
déjà,
un aspect...
je vois, je peux pas vraiment dire ça non plus, mais il y a un aspect, j'imagine qu'il y a quelque chose là-dedans, socialement, qui fait en sorte qu'on perçoit les femmes comme étant plus vulnérables. Je parle bien de perception. Donc, on refuse que ça... Et avec raison, parce que je trouve ça inacceptable. Puis les gars, comme, sont supposés être tough, puis de toute façon, que ce soit des commentaires, que ce soit une fille qui épogne ou n'importe quoi, ben ils sont moins sensibles, puis ça va moins faire d'effet.
Ben, c'est parce que... je sais pas si on a le droit ou pas de dire ça, mais l'aspect de la vulnérabilité que tu parles, il existe pour vrai, dans le sens que une femme qui se fait un petit peu harceler ou intimider par un homme va avoir pas mal plus peur de lui physiquement, parce que je sais, si un homme commence à harceler, puis à démontrer des signes d'insistance, je sais que physiquement... il est plus fort que moi. Tandis que toi, dans la situation inverse, ben, tu sais que ça pourra jamais dépasser une certaine limite parce que physiquement, tu vas être capable de défendre.
Exact.
L'aspect de domination des hommes envers les femmes, il existe depuis très, très longtemps et je pense qu'il est dû beaucoup sur l'aspect physique. Alors, c'est pour ça qu'on a souvent accordé une plus grande importance au harcèlement d'un homme envers une femme que l'inverse, parce que physiquement, les femmes ont peut-être plus... Parce que j'ai choisi mes mots parce que c'est un sujet qui est tellement sensible.
Mais toi, tu peux aller plus loin que moi. Vas-y,
non,
je sais, pense
mais
que tu peux y aller plus loin
je pense
que moi.
Un homme est plus capable de se défendre contre une femme harcelante qu'une femme est capable de se défendre contre un homme harcelant. C'est ça la vérité. Je veux dire, la grande majorité des hommes de mon âge sont plus forts que moi physiquement. Fait que s'ils décident qu'ils me ramassent puis qu'ils m'harcèlent, ils vont probablement être capables de le faire jusqu'à un certain point. Mm-hmm. Tandis que l'inverse est peut-être un petit peu moins vrai. Ça veut pas dire, par contre, que les hommes battus, c'est moins important que les femmes battues. Ça veut pas dire ça du tout, du tout. Ça veut dire seulement qu'on a concentré nos efforts à défendre les femmes au fil des années parce qu'il y avait un aspect de vulnérabilité à contrôler. Et c'est pour, mais aujourd'hui, ça fait en sorte que des Sabrina, qui est une femme, se permet d'appeler Bernard Drainville, son animateur radio qu'elle aime, pour lui dire qu'il est rendu gros puis qu'il est plus attirant. C'est incroyable quand même.
Je vais donner un autre exemple plutôt sympathique qui vient de rentrer par texto. J'imagine que c'est une auditrice. Bon, OK, ben vous savez que hier je me suis fait raser les cheveux par Elisabeth dans le cadre du défi tête rasée le camp et maintenant j'ai le coco rasé. Bon, alors une auditrice, j'imagine, c'est peut-être un auditeur, mais peu importe là, mais une auditrice me écrit en tout cas Jean-Simon est moins beau avec les cheveux rasés mais sa voix reste la même. Bon, moi j'ai la même voix puis bon, c'est correct, je trouve ça drôle parce qu'effectivement, je suis pas sûr que c'est ma meilleure coupe, mais tu vois, ça me fait juste rire un peu en le disant, ça me fait sourire. Mais imagine que t'avais fait le défi d'être rasé le camp.
Ouais.
Un auditeur t'écrit, en tout cas, Elisabeth est moins belle avec les cheveux rasés, mais sa voix reste la même ou une affaire de même. Là, ben, en passant, c'est un gars puis c'est une blague, là, mais bon, c'est pas grave.
Non, mais, même,
mais tu comprends pareil.
Ouais, l'exemple
est pas pire, là, un auditeur écrit ça, tu risques de trouver ça blessant, tandis que moi, que ça a été une blague puis un gars puis whatever, ou une fille, peu importe, je trouve ça drôle, tu sais. Fait qu'il y a un double standard dans la perception de la société par rapport aux commentaires d'un sexe et de l'autre.
Puis dans le dénigrement aussi, Martin, il y a un bon point. Il dit, on parle pas d'harcèlement, mais de dénigrement. On est plus tolérant à ça. C'est vrai que ça passe toujours mieux dans la société de dénigrer un homme que de dénigrer une femme. De traiter un gars de pas trop beau, ça passe toujours mieux que de traiter une fille de pas trop belle.
Exact.
Puis je sais pas pourquoi, parce que moi, je crois pas à ça que les hommes sont plus tolérants à ça ou moins sensibles à ça. Moi, je connais un paquet d'hommes qui aimeraient pas ça se faire dire qu'ils sont laids à tous les jours de leur vie. Est-ce que peut-être que les hommes le cachent mieux ou je sais pas, j'ai pas d'explication à ça, mais je pense pas que c'est parce que les hommes ont une plus grande tolérance au dénigrement. Moi, je pense qu'on a tous le même cœur.
Mais dans ton rôle social, selon les rôles sociaux, parce qu'il y a des rôles sexuels, tu sais, les gens qui veulent faire à croire qu'il n'y a pas de rôle sexuel, c'est faux. Oui, c'est peut-être une construction sociale, absolument, mais le rôle d'un homme dans la société, là, l'homme qui standard, qu'on présente, tout ça, ben, il y a des couilles, il se tient debout, puis il se laisse pas atteindre par quoi que ce soit, puis il braille pas. Puis si on dit qu'il est lettre, ben, il encaisse, puis c'est pas grave parce que Néo, il va prendre bien avec ses chums. C'est ça, pareil, ça reste encore un peu dans l'inconscient collectif.
C'est vrai.
Tandis que la fille, ben, il reste encore un peu dans notre société, de moins en moins, de la princesse vulnérable qu'on doit sauver sur notre blanc d'estrier, nous autres, les hommes galants.
Ouais, ça
existe
c'est
encore
moins,
un petit peu.
Oui, mais un petit peu, moi. C'est beaucoup moins là.
Mais il reste des traces de ça, et c'est peut-être peut-être dans notre perception des commentaires et du dénigrement.
Puis tu vois, il y a Bernard qui nous écrit au 25226.
Bernard Drinville?
Non, un autre Bernard. Un autre qui nous écrit. L'autre jour, au Costco, je rencontre ma tante que j'avais pas vue depuis longtemps. Puis la première chose qu'elle me dit, c'est « T'as donc bien engraissé. J'ai bien beau être un homme, ça blesse quand même. » C'est vrai, là.
C'est vrai.
Puis je rencontre quelqu'un, moi, que je connais, puis la première affaire qu'il me dit, c'est « Mon Dieu, t'es vraiment engraissé, ça va me blesser. » Puis je crois pas à ça qu'un homme va se faire dire la même chose, puis ça le blessera automatiquement pas parce que c'est un homme.
Ouais.
Je pense pas que c'est une composante qu'on peut prendre en compte. Et il y a Serge qui nous dit « Je trouve personnellement les propos de l'auditrice très inappropriés, autant chez un garçon que chez une fille. » Puis c'est ça que je pense aussi. Je pense qu'au bout de la ligne, ces propos-là ne sont pas plus acceptables parce que c'est une femme qui les dit à un homme. Dans les deux cas, que ce soit un homme envers une femme ou une femme envers un homme, tu dis pas à quelqu'un que tu connais pas comme ça, « Mon Dieu, t'as engraissé, t'es nommé rendu lettre. » C'est juste méchant. Tant qu'à moi, est-ce que ça venait d'une intention méchante de Sabrina? Écoute, en entendant sa voix puis son propos, je pense que ça venait pas nécessairement d'une méchanceté pure.
Non, c'est de la maladresse.
C'est de la maladresse.
De l'étourderie.
Oh oui, c'est ça. Ça. C'est juste très, très inapproprié. À la demande générale, il y en a qui veulent qu'on le fasse jouer encore.
Ah, parfait.
Si vous étiez pas là au début du segment, on parlait de Bernard Drinville qui a reçu en ligne ouverte hier un appel d'une dame qui s'appelait Sabrina. Il pensait qu'elle allait se prononcer sur la saga Maxi et Martin Matt sur le fait que c'était une publicité ou non grossophobe, mais voici plutôt ce qui est arrivé.
Sabrina, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Bernard.
Bonjour Madame Sabrina.
Oui, moi je vous ai vu à Radio-Canada récemment et puis j'ai toujours trouvé que vous étiez un homme très beau, mais là depuis quelque temps vous avez pas juste une bedaine, vous avez le dessous de la gorge qui commence à exploser. Ça, automatiquement, ça, c'est de l'embonpoint. Puis moi, je suis contre les gros parce que je me dis, imaginez-vous donc, dans les CHSLD, aujourd'hui, on change les gens à la couche, on les lave, tout ça. Imaginez-vous dans le futur, là, ça... les gros, ils vont faire les gros, ils vont puer davantage.
Sabrina, arrêtez, là, wow! Là, c'est pas une blague, là, OK? Je vous le dis, là. Sabrina, vous m'avez vu récemment à la télé, puis oui. Vous avez trouvé que j'étais devenu trop gros, là. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Vous êtes en train de me traiter de gros, là.
Oui, mais vous êtes pas gros, là. Mais vous êtes, avant, je vous voyais à l'Assemblée nationale avec Mme Marois. Vous étiez beau, élégant. Je vous ai toujours trouvé beau. Je me disais, mon Dieu, j'aimerais ça avoir un homme dans ma vie comme ça, dans mon lit. Hey, bel homme. Mais là, récemment, quand je vous ai vu à Radio-Canada, mon Dieu, là, j'ai dit, oh, il commence à avoir une double gorge. Oh, ben non. Monsieur Drinville, je vais être honnête avec vous, puis ça, je vous
mais
dis.
Mais là, je trouve que vous l'êtes pas
ça,
mal.
Les gens qui sont gros, là, quand ils vieillissent, toutes les chairs tombent et c'est très laid.
OK. Sabrina, c'est gentil de m'avoir appelé. Vraiment, là, je l'apprécie vraiment beaucoup. Je vais réfléchir à votre message. OK, à la prochaine, là. C'est pas arrangé avec le gars des vues, là. Sabrina, je la connais pas, là. J'ai jamais parlé à Sabrina, puis Sabrina, elle vient... C'est ça, là, je vais réfléchir à ça.
Gros jambon, gros jambon.
Que Québec se lève, samedi et dimanche, 7h.
Que Québec se lève...
Avec Paul-Raphaël Charon, Vez et Alexis Sanson.
Au FM 93.
Pour affoler du homard, je peux vous dire que Normandin vous l'apprête de trois délicieuses façons et que vous adorez sans aucun doute la pizza au homard. Qui de mieux que les pros de la pizza pour proposer la meilleure pizza au homard? C'est une évidence. Le lobster roll, servi avec frites ou salade, et le populaire club sandwich au homard, offert au comptoir ou en livraison. Vous pourrez vous délecter de homard à la maison ou sur votre perron. Faut pas bouder son plaisir. Normandin, ça fait du bien.
Vous êtes peut-être une entreprise qui avait des chiffres à combler aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, dans un mois, les vacances s'en viennent. Vous n'avez pas réussi à trouver assez d'employés pour combler tous vos chiffres de travail. Ben, faites affaire avec dispoapp.ca. C'est très, très simple, dispoapp.ca, application de personnel temporaire sur demande. Quand vous allez sur dispoapp.ca et que vous faites une demande, très souvent, on est capable de combler la plupart de vos mandats dans les heures qui suivent. Ça veut dire qu'à cette heure-ci, vendredi, là, si vous avez un besoin pour demain, samedi ou dimanche, dimanche, on va probablement être capable de le combler. On a plus de 600 candidats qui sont préqualifiés et disponibles pour reprendre en quelques heures. Ça peut être un mandat d'une journée pour un seul chiffre de travail, une semaine ou encore un mois. Et pas besoin de les former, là, ils sont déjà préqualifiés. On a des livreurs, on a des commis d'entrepôt, on a des préparateurs de commandes, des agents de sécurité, des serveurs, des cuisiniers, des plongeurs et plus encore. Ça vaut la peine de faire affaire avec dispoapp.ca. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Alors, on va peut-être vous aider à combler des mandats dont vous avez besoin pour cette semaine ou la semaine prochaine ou dans un mois. Je vous rappelle, mandat d'une journée, une semaine ou un mois, dispoapp.ca.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Depuis plus de 40 ans, Ameublement JGR de Laurier Station prend soin de votre confort. Notre entreprise familiale se fait un point d'honneur de vous offrir des meubles de qualité fabriqués au Québec. L'achat local fait partie de nos valeurs d'entreprise. Nous respectons les consignes de la sécurité publique, alors venez nous voir sans crainte. Laissez-nous vous surprendre avec notre service chaleureux et notre vaste gamme de produits qui répondent à votre budget. Chez Ameublement JGR, nous croyons que chaque client doit être considéré comme un ami. Ameublement JGR, à Laurier Station, à 20 minutes des ponts. On a hâte de vous voir.
Votre salon de coiffure Color Champ ouvre dès lundi à Laurier Québec. Il est temps de prendre rendez-vous avec leur coiffeur. Tous les services de coiffure et de vente de produits seront ouverts dès lundi. Vos spécialistes se feront un plaisir de vous conseiller sur leurs centaines de produits, couleurs, ciseaux, clippers, produits pour les cheveux des enfants. Réservez dès maintenant 581-742-1500, 581-742-1500. Color Champ, salon concept L'Oréal à Laurier Québec. Color Chat.com.
Groupe Saillant, c'est 4 concessionnaires.
Laurier Mazda, 5 fois Toyota, option Subaru et 5 fois Hyundai.
Avoir une bonne réputation, c'est pas utile quand ça va bien, c'est utile quand c'est difficile. Laurier Mazda est ouvert depuis le 4 mai avec des mesures sanitaires au-dessus des normes et 4,8 étoiles dans Google. C'est sûr que ça fait bizarre de voir nos vendeurs qui gardent leur distance. Habituellement, ils sont pas mal plus chaleureux que ça. Mais pour proposer une CX-30 qui est plus performante que la CX-3, plus raffinée que la CX-9, à partir de seulement 75 $ par semaine, ben on fait ce qu'il faut. Venez ne pas serrer la main à nos conseillers et venez nous voir chez Laurier Mazda.
Ça cartonne!
Allô, Félix? Hey, as-tu hâte? Tu sais, bientôt, tu vas pouvoir rejoindre tes amis à l'école.
C'est mes amis de Sainte-Foy-Toyota que je veux revoir.
Sainte-Foy-Toyota, ben ça tombe bien. Ils sont ouverts depuis le 4 mai avec des mesures sanitaires très strictes. Ce qui n'empêche pas d'offrir une Corolla L à partir de seulement 58 $ par semaine. Alors, on se lave les mains et on s'en va chez Sainte-Foy-Toyota.
Comme toujours, j'ai les mains propres, les dents lavées et les cheveux bien peignés.
Ben oui. Sainte-Foy-Toyota, ça roule.
Pour moi!
Option Subaru vous accueille dès maintenant avec des mesures de protection sanitaire au-dessus des normes. Mais chez nous, ça donne que c'est pas nouveau. OK, on lave puis on désinfecte plus, mais la sécurité, c'est dans notre ADN. La traction intégrale symétrique sur tous nos modèles, la qualité de construction, la garantie, ben c'est rien de nouveau chez Option Subaru. En mai, on vous offre la toute nouvelle Outback 2020 à partir de 32 808 $. Option Subaru, aujourd'hui comme avant, assurez votre sécurité et garantir votre achat. On ne s'en lavera pas les mains. Slogan.
Ta meilleure option, c'est Option Subaru.
Tu rêves depuis 2 mois de juste sortir dehors? Voir quelqu'un d'autre que le bon docteur à la TV? Ben, dis-toi que le temps est enfin arrivé. Viens chez Sainte-Foy Hyundai te défouler en repartant avec une Hyundai toute neuve qui sent le printemps le purel! On a full ouvert, on est propre, pis même la fille qui donne les deals porte un masque!
Pendant l'événement Acheter en toute confiance, une Kona 2020 est à seulement 60 $ par semaine. Tout aseptisé en plus.
Chez Sainte-Foy Hyundai, on se lave tellement les mains que nos mécaniciens pourraient faire des tartelettes portugaises entre 2 changements d'huile!
Le nouveau Sainte-Foy Hyundai. Miam, miam.
2 minutes de pub d'automobile. Vous avez décroché parce que vous ne vous sentez pas concerné? Vous croyez que l'accès à un véhicule neuf est impossible car votre crédit ne vous le permet pas? Eh bien, sachez que le groupe Saillant possède aussi sa division de crédit spécialisée qui est là pour vous aider à obtenir un nouveau véhicule, qu'il soit neuf ou presque neuf, et ainsi vous permettre de rétablir votre crédit. Et au lieu de vous dire « j'aurais donc dû », venez donc nous voir en premier. Parce que rebâtir votre crédit, c'est ce qu'on fait dans la vie. Groupe Saillant au crédit.
Pour prévenir davantage la propagation du virus, il est fortement recommandé de porter un masque dans les lieux publics où la distanciation de 2 mètres n'est pas possible, comme les épiceries, les transports collectifs ou les commerces. La meilleure façon de protéger sa santé et celle des autres demeure le respect des mesures d'hygiène reconnues. Par exemple, se laver les mains régulièrement et garder ses distances. On continue de se protéger. Informez-vous sur québec.ca/masque. Un message du gouvernement du Québec.
Bouchard en parle, présenté par Jean Lelièvre. Éliminez vos dettes sans faire faillite, c'est possible. Jean Lelièvre, autorisé en insolvabilité. Visitez jeanlelièvresyndic.com.
Comme à chaque vendredi à 7h-ci, on reçoit notre chroniqueur sportif Ray Lalonde qui est avec nous. Salut Ray!
Salut Elisabeth, salut Jean-Simon.
Salut.
Et Ray, ça a été une surprise d'apprendre dans les derniers jours que les ligues de soccer allaient reprendre leurs activités en Europe parce qu'on sait qu'il y a plusieurs foyers d'éclosion qui sont arrivés en Europe à cause des matchs de soccer.
Oui, mais tu sais, surtout qu'en avril, ça fait déjà 6-7 semaines, la Ligue 1 en France avait annulé sa saison complète.
Ouais.
Alors, eux, ils avaient procédé avec une extrême prudence, tandis que les trois autres grandes ligues, ben les quatre, avec la Bundesliga qui a commencé il y a deux semaines, mais la Premier League en Angleterre, la Serie A en Italie, puis la Liga en Espagne, qui sont les locomotives de l'économie du sport en Europe. Pour avoir vécu en Europe longtemps, il n'y a rien qui compte comme le soccer, comme le football, vis-à-vis des autres sports. C'est plus intense et plus important dans la vie quotidienne des Européens que le hockey l'est au Canada.
Mais c'est ça, quoi c'est exactement cette importance-là? Parce que c'est pas la première fois que j'entends ça. C'est vrai, les Européens sont très, très, très fans et quasiment des militants là, pour leur équipe de soccer. Mais dans le quotidien, ça se traduit comment? Par exemple, je sais que quand il y a des succès d'une équipe en particulier, c'est pas des émeutes, là, mais c'est de très, très grands rassemblements, puis pas juste pour la Coupe finale, là, pour un match qu'ils ont gagné, par exemple.
Oui, ben j'étais en Europe lorsqu'on avait eu la Coupe du Monde en 98, puis la France avait gagné. J'étais à Paris, justement, sur les Champs-Élysées après le match. Je suis allé voir des matchs la Coupe du Monde, des matchs dans plusieurs pays. C'est assez intense. Les Européens ont le sang chaud, comme on dit. Il y a cette espèce de culture latine qui fait en sorte qu'ils sont passionnés par leur équipe. Le basketball, en contrepartie, en Europe, est aussi intense dans d'autres pays plus petits, comme l'Israël, comme la Grèce, comme la Turquie. Mais le soccer fait en sorte que les gens... C'est leur moment de détente. Ils le font de façon très sérieuse. C'est beaucoup différent de la consommation sport-spectacle en Amérique du Nord, auquel on est habitué, nous, depuis 30-40 ans.
C'est quasi religieux, Ray. C'est quasi religieux, Ray, le soccer.
Exactement. Là. C'est très bien dit. C'est quasi religieux. Écoute, en Espagne, c'est un pays que je connais très bien. Il y a 4 journaux quotidiens, sport seulement. C'est-à-dire, de la première à la dernière page, du sport, puis 80% du contenu dans ces journaux-là. Alors, Marca à Madrid, suivi d'El Mundo Deportivo à Barcelone, Sport à Barcelone, puis AS à Madrid. Quatre qui font la concurrence. On parle de journaux là qui lentement mais sûrement disparaissent de notre vie moderne. Ces 4 grands compétiteurs-là, ça se compare à l'équipe en France.
Mm-hmm.
Et en Italie, t'as le Corriere dello Sport, et la Gazzetta dello Sport. Alors, c'est pour vous dire comment ces dates-là sont vraiment importantes. La Liga en Espagne part le 10 juin, la Premier League le 17 juin, puis la Serie A le 20 juin. Ça, c'est ce qu'on va être obligé de qualifier comme un grand pas vers l'avant dans le monde sportif, parce que c'est avant toutes les ligues nord-américaines, puis ça va suivre ce que la Bundesliga a fait il y a deux semaines.
Fait qu'on va, en fait, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs, là. C'est surtout une bonne nouvelle pour l'avenir du sport parce qu'on sent, avec l'annonce de la LNH aussi, dont on va parler dans quelques instants, on sent, là, qu'il y a comme une espèce de regain d'enthousiasme pour ces sports-là, même si j'ai personnellement encore des doutes que l'intérêt va être le même si on fait ça à huis clos et surtout pendant la saison estivale, là, surtout pour le hockey. Parce qu'on a appris dans les derniers jours, Rick, le Canadien allait faire les séries finalement.
Ça sent la coupe.
Ben oui.
Ça sent la coupe, ça sent la parade. On se prépare pour une parade avec distanciation sociale.
Ben c'est ça, tu sais, en plein été en plus, je suis pas sûr que les gens vont avoir un intérêt si grand que ça.
Je pense, Elisabeth, qu'il y a deux éléments importants dans ce que tu viens de dire là, par rapport au hockey, par rapport à tous les sports. Premièrement, l'espèce de questionnement vis-à-vis la consommation à la télé.
Ouais.
Et sans spectateurs dans les gradins. C'est une combinaison des deux éléments. 90% des matchs de sport qu'on regarde dans nos vies sont à la télé ou sur un écran avec un stream vidéo. C'est rare les occasions qu'on est en direct dans un stade.
C'est vrai.
Donc, ça sera pas un gros changement dans notre vie. Est-ce que le fait qu'il n'y a pas d'ambiance, puis il n'y a pas de bruit, puis il n'y a pas de son, puis il n'y a pas l'authenticité d'un match, est-ce que ça peut nous déranger un peu? On va le remarquer, mais on va s'habituer très rapidement. Le défi, je pense, à court terme cet été, c'est qu'il risque d'avoir à partir du mois de juillet et août, pas avant juillet, mais juillet et août là, pour le sport nord-américain, il va y avoir une congestion. Parce que ça risque de démarrer d'aplomb pas mal tous au même moment. La NBA a annoncé aujourd'hui que le départ souhaité des matchs serait le 31 juillet. Tandis qu'au hockey, M. Bettman a annoncé cette semaine que les camps d'entraînement débuteraient début juillet.
Ouais.
Et à peu près 25-30 jours plus tard, donc début août, le début des matchs incluant les Canadiens, les Blackhawks, les Rangers, trois équipes de gros marchés qui n'étaient pas du tout proches de se qualifier.
Ouais.
Qui vont faire partie de la grande dame.
C'est ça l'affaire, oui, parce que on a vraiment senti de la part de Bettman dans les dernières semaines qu'il y avait une espèce d'obsession de vouloir remettre la Coupe Stanley. C'était pas une option pour lui qu'il n'y ait pas de séries éliminatoires puis que la saison soit annulée. Mais devant ce grand désir-là de remettre la Coupe Stanley, on est arrivé avec une solution qui fait pas tellement l'unanimité puis qui est même critiquée à certains égards. Est-ce que c'était vraiment la bonne chose à faire faire une série comme ça?
Oui, Elisabeth, il faut toujours se mettre dans les pieds de Bettman ou dans les pieds d'un PDG qui est responsable d'une entreprise qui vaut peut-être au hockey autour d'à peu près 45 milliards de dollars au total. Mm-hmm. Alors, si on était les PDG d'une entreprise comme ça, là, avec une valorisation de tel niveau, là, c'est certain qu'on chercherait toutes les solutions possibles pour débuter et terminer et compléter. Alors, c'est pas étonnant. L'obsession, je crois pas. Je pense que ce sont des gens sérieux. Adam Silver, Gary Bettman, c'est des dirigeants de sport depuis 30-40 ans. Ce sont des gars qui ont énormément d'expérience. Puis le 12 mars dernier, lorsque le sport a arrêté, ils étaient déjà en réflexion à savoir quand est-ce qu'on peut reprendre avec les moyens de santé et sécurité qui sont nécessaires. Alors, je pense pas qu'on peut l'accuser de vouloir poursuivre son industrie. C'est son mandat auprès des 31 propriétaires de la Ligue. Et je pense qu'il l'a fait prudemment cette semaine avec certaines conditions. Il voulait pas trop se mouiller sur des dates. Il a même parlé jusqu'à commencer l'an prochain, la saison prochaine, en janvier. Alors, mais je l'ai répété à plusieurs reprises, ça va nous prendre 2-3 ans à s'ajuster économiquement et en termes du réalignement du calendrier à ce qu'on vit actuellement. C'est impossible de corriger d'un seul coup l'an prochain.
Qu'est-ce qui peut arriver aux diffuseurs de télé, Ray? Ça, c'est une question que je me pose parce que je sais que les derniers contrats de diffusion dans la Ligue nationale, ça a été des montants qui étaient excessivement très, très, très élevés et ils comptaient sur des revenus publicitaires importants au fil des prochaines années pour rentrer dans leur argent. On sait que ça n'a pas été le cas partout. En fait, c'est assez rare, là, les chaînes télévisuelles qui ont réussi à rentrer dans leur argent, ceux qui ont la diffusion officielle. Et c'est encore plus le cas depuis quelques semaines et pour les prochaines semaines parce que les cotes d'écoute, ça a diminué grandement. Mais les contrats sont loin d'être terminés. Il reste encore plusieurs années et les montants sont les mêmes qu'au début du contrat. Qu'est-ce qui peut arriver pour une chaîne télé qui a les droits de diffusion d'une équipe de hockey si elle n'est plus capable de payer les droits?
Ouais, ben la réponse rapide, c'est qu'ils vont payer les droits. La Ligue nationale de hockey, on va se focusser uniquement sur le hockey, là, a une entente avec NBC aux États-Unis qui vaut 200 millions de dollars par année US, puis au Canada avec Sportsnet via l'ensemble du réseau Rogers, et TVA Sport fait partie de ça pour 12 ans pour 5,5 milliards de dollars canadiens. Bon, alors, est-ce que ça a été rentable jusqu'à maintenant? Probablement que Sportsnet aurait souhaité que depuis quelques années, les équipes canadiennes performent mieux.
Ouais.
Ça n'a pas été le cas, particulièrement au Québec. TVA Sport aurait souhaité que les Canadiens de Montréal accèdent aux séries de façon plus régulière et plus longtemps.
Parce que ça arrivait quoi, deux fois en 6 ans? Tu fais 5 ans, 5-6 ans déjà?
J'ai perdu le compte
tellement c'est rare.
C'est vraiment décevant.
Ouais.
C'est décevant parce que, puis outre la politique ou les comparaisons entre un Bell Media et un TVA Sport, un Québécois, je suis obligé de dire que je me sens très mal pour eux autres.
Ben oui.
Parce qu'ils ont investi avec la confiance qu'ils achetaient l'exclusivité des séries.
Ouais.
Puis qu'évidemment que les Canadiens font partie de ça.
Ouais.
Les Canadiens n'ont pas livré. C'est très difficile pour eux financièrement. Alors, ils sont pas à critiquer à ce niveau-là. C'est sûr que c'est difficile opérer un réseau. C'est très coûteux. Et puis, c'est un engagement puis un investissement gigantesque. Puis en plus, si ton produit principal sur lequel tu t'es appuyé pour lancer cette chaîne-là, le hockey, ne livre pas les résultats, c'est dommage. Mais à court terme, ils vont tenter de naviguer, de compenser, de créditer pour l'an prochain. Ils vont tenter de faire les derniers frais nécessaires pour la saison 19-20 et de se réaligner pour l'an prochain en tentant de préserver les droits parce que Élisabeth, c'est loin d'être sûr qu'il va y avoir des gens dans les gradins. Fait qu'il y a une chose qu'il faut que tu préserves, c'est les droits de télédiffusion.
Oui, puis en même temps, je me dis, est-ce que ça se peut qu'avant la fin du contrat, il y a une chaîne télévisée qui se dit, excusez, là, on n'est juste plus capable de payer, on ne fait que s'endetter depuis des années, on débarque. Ça se peut-tu, oui. Ça, ou ça se peut
ça
pas?
Ça se peut. Okay. Ben oui, tout est possible. C'est possible dans un sens ou dans l'autre, pas juste au Canada non plus. Mais ça va dépendre de la profondeur des poches de certains réseaux et de leur capacité à gérer ça. Mais la Ligue nationale de hockey, comme toutes les ligues, tient à avoir des relations avec des partenaires qui sont en bonne santé.
Ouais, c'est ça.
Donc, ils vont tout faire pour les aider. Puis c'est pour ça qu'il va avoir une espèce, c'est même pas une négociation, c'est une espèce de conciliation pour qu'on puisse s'aider à survivre. Tout le monde a besoin d'aide actuellement dans le sport. C'est pas le temps d'être exigeant comme c'est le cas au baseball que j'entends cette semaine.
Et moi, je vois ça plutôt positivement avant qu'on aille sur le baseball. Ray, là, la formule de la LNH puis de la NBA aussi peut-être qui s'en vient. Parce que moi, j'y vois la recette et la possibilité de belles histoires, c'est-à-dire des équipes Cendrillon, des underdogs qui pourraient déjouer les attentes. Par exemple, mettons que Carey Price est en forme resplendissante puis que Sidney Crosby tousse pendant la série 3-5 entre le Canadien et les Pingouins. On pourrait avoir des runs intéressantes dans les séries d'équipes qu'on ne voyait pas là pantoute puis qui n'auraient même pas fait les séries. Fait que peut-être que, puis c'est peut-être trop optimiste de ma part, Ray, là, tu me diras ce que tu en penses, hein, mais peut-être que c'est l'occasion de redorer le blason de certaines équipes ou de certains sports.
Ben non seulement c'est l'occasion d'avoir des surprises, mais les consommateurs, les partisans de sport ne vivent qu'avec le drame, puis avec l'espèce de d'inattention et ce qu'on s'attend pas de voir qui survient devant nos yeux. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir une surprise ou deux, même dans la première ronde. Pourquoi? Parce que c'est court, c'est 3-5.
Ben oui.
Il suffit que tu voles un match, que tu aies un gardien qui est très hot, si vous me permettez l'expression. Et puis, soudainement, on renverse la vapeur, l'autre équipe manque de confiance. En 2010, avec les Canadiens, on avait un gars qui s'appelait Yaroslav Halak.
Ben oui.
Puis je veux dire, de quoi? Yaroslav Halak, là, il passe inaperçu dans les rues, là. C'est un gentil monsieur, je le connais très bien, très professionnel et courtois. Il s'est dressé comme un mur devant les Capitals de Washington, qui ont connu peut-être leur meilleure saison de leur histoire. Et ils se sont fait ramasser en première ronde par les Canadiens. Puis ça a été les Penguins de Pittsburgh au rendez-vous tout de suite après. Puis si c'était pas d'Alac, on n'avait pas d'affaire à gagner ces séries-là. Ça peut arriver. C'est ça qui est bon pour le sport. C'est ça qui rend le sport intriguant, intéressant et passionnant. Alors, je le souhaite, puis je suis content, comme tu le dis, qu'on a élargi les cartes parce que ça nous permet d'innover sur différents modèles qui peut-être un jour seraient considérés. Pourquoi pas avoir 24 équipes à chaque année dans les séries?
Pourquoi pas? Et en terminant, Ray, on va parler du baseball un petit peu parce que c'est quand même des bonnes nouvelles là, qu'on annonce dans quelques sports depuis quelques minutes, mais pour le baseball, ça se passe pas très bien. Là.
Non, le baseball est vraiment en difficulté. Honnêtement, c'est la semaine la plus critique pour cette saison. Ils ont à peu près une dizaine de jours avant de trouver une entente. Puis la raison pourquoi ils s'entendent pas, c'est que les propriétaires ont mis devant un projet. On va jouer 82 matchs puis on va vous payer au prorata. Ça veut dire que des gars comme Mike Trout puis des gars comme Clayton Kershaw avec les Dodgers qui gagnent des salaires de 30-35 millions de dollars, déjà, ça diminuait en deux. OK, ça, on accepte. Tu vas gagner la moitié de ton salaire parce que tu vas jouer la moitié des matchs. Mais cette proposition-là qui date du 26 mars, elle a été présentée en pensant qu'il y aurait des gens dans les gradins. Bon, maintenant qu'on accepte qu'il n'y aura personne dans les gradins cette saison, ça veut dire que là, les revenus diminuent encore un autre 40-35%. Alors, les propriétaires ont fait une autre offre cette semaine en leur disant, bon, moitié du salaire, mais en plus, on va trancher d'une autre moitié. Fait qu'ils veulent que les joueurs jouent 50% des matchs pour 25% du salaire. Alors, évidemment, il y a une réaction très forte à ça. Et là, on ne se parle même pas. On est à la fin mai, la saison, pas la saison, mais le regroupement des joueurs devrait se faire autour du 10 juin. Et on n'est même pas en conversation. Un gros conflit à l'horizon, ça pourrait leur coûter la saison. Puis Dieu sait que c'est coûteux.
C'est cher.
Écoute, le baseball, c'est une business de 11 milliards de dollars annuellement.
Donc, on va espérer, en fait. Là, tu dis cette semaine, c'est une semaine critique. Il reste encore du temps pour régler ça ou mettons qu'il est minuit moins quart?
Ils veulent jouer à partir du 4 juillet.
Ouais.
Puis là, il faut toujours que tu ailles à reculons. Fait que 4 juillet, c'est le temps qui te permettrait de jouer 82 matchs pour te rendre en novembre. Fait que si tu commences pas le 4 juillet, là, tu commences à réduire les matchs de plus en plus. Et la raison pourquoi tu peux pas commencer avant le 4 juillet, parce qu'on arrive la semaine prochaine au 4 juin.
Oui.
Puis c'est à peu près un mois pour permettre à ces joueurs-là de se remettre en forme puis de jouer des matchs de pré-saison préparatoires et aller dans un camp d'entraînement.
Fait qu'il reste quelques jours tout au plus, là.
Oui.
Excellent. Bon, on va suivre ça de près. Merci beaucoup, Ray.
Salut, bon week-end à vous deux.
Bye. Merci, bon week-end. Ray Lalonde, notre chroniqueur sportif, à qui on parle tous les vendredis à 7h-ci, 15h50.
Vos Portofino Québec et Sainte-Foy célèbrent leurs 25 ans en vous offrant 25 % sur les plats de pâtes à emporter. Fettuccini au pesto, tortellini farci à la ricotta, penne arrabbiata. Commandez à portofino.ca et au téléphone. 25 ans, ça se fête en grand. À vos deux Portofino.
Ça y est, votre salon coiffure internationale ouvre dès lundi à Place de la Cité. Il est temps de prendre rendez-vous avec leur coiffeur. Tous les services de coiffure et de vente de produits seront ouverts dès lundi. Cheveux trop longs? Vous avez une repousse? Besoin d'une coloration? Prenez vite rendez-vous chez Coiffure International. 651-2722. 418-651-2722. Besoin de produits? Coloration? Ciseaux? Clippers? Ils répondront avec professionnalisme à vos questions. Coiffure International. Salon Concept Kérastase. Coiffure.com.
Pour vos pièces automobiles, votre premier choix, c'est Nordique. Que vous cherchiez une pièce pas chère, une pièce équivalente ou encore une pièce supérieure à celle d'origine. Nordique, est-ce qu'il y a de mieux au meilleur prix? Nordique, 613 Première Avenue et 9111 Boulevard Henri Bourassa. T'es un élève du primaire ou du secondaire? Joins-toi à la Fondation Solidi Extrême pour briser l'isolement des personnes aînées. Envoie photos, vidéos, spectacles ou des salutations en direct. Tu recevras un T-shirt et ton matériel sera vu par nos aînés. Détails à fondationsolidi.org. En cette période exceptionnelle, ça fait du bien de s'offrir un congé de cuisiner et de se gâter.
Voici votre commande.
Plusieurs restos se sont retroussés les manches pour vous offrir vos repas préférés pour emporter ou en livraison. Des mesures rigoureuses sont en place pour vous protéger et prendre soin des employés. En plus, vous encouragez nos restaurateurs et nos commerçants locaux. Textez RESTO au 25226 pour des idées ou commander, dont...
Le Shaker, Thomas Tam, restaurant La Girolle et grossiste Le Frigo.
Bon appétit!
Bouge en parle. Au retour, jusqu'à 18h, vous écoutez Bouchard en parle.
On a eu quelques dates pour différentes mesures de déconfinement dans les derniers jours. C'est des dates, t'as remarqué, Jean-Simon, qui sont toujours à très court terme. 1er juin, ça va être ça. Ouais. Pour plus tard, on va entamer une phase ultérieure. À un moment donné, on verra.
Mais j'ai pas... d'un mois, à peu près.
À peu près, ouais. C'est ça. Mais j'ai pas vu ben d'industrie dire, nous autres, c'est fini, fall ball pour 6 mois, mettons. Ça, on n'est pas encore rendu là. Par contre, il y a une industrie qui va n'arracher encore pendant quelques mois, puis c'est confirmé, c'est l'industrie des croisières. Vous allez dire, on s'en doutait. Ben oui, mais probablement qu'avant que ce soit annoncé, il y a toujours espoir qu'on puisse peut-être commencer à faire des affaires à moindre niveau éventuellement. Mais ce qu'on a appris, c'est que l'interdiction des croisières était prolongée jusqu'au 31 octobre. Évidemment, ça va avoir des impacts sur le port de Québec ici. Et notre collègue Jonathan Bernard est allé aux réactions pour cette nouvelle-là. Jonathan, bonjour.
Salut à vous.
Jonathan, tu as parlé à Mario Girard, le PDG du port de Québec. Pour le 31 octobre, ça fait c'est combien de mois à partir d'ici? C'est 4 mois, ça? Juin, juillet, août, septembre. Et c'est 5 mois.
C'est 5 mois. Aïe, okay. Mais regarde, c'est assez simple. La saison de croisière à Québec en 2020 est à l'eau. Totalement. Ouais, on oublie ça parce que le dernier navire qui était prévu cette année au port de Québec, il devait arriver au port le 31 octobre. Donc, vous comprenez,
ouais, c'est ça.
On oublie ça tout simplement. Ah, là. Ouais, il n'y en fini, aura fini. Pas de croisière internationale à Québec cette année. C'est des retombées qui sont très, très, très importantes. De l'ordre de 200 millions ici à Québec. C'est beaucoup de sous. Là-dessus, ben, tu as les gens qui sont en escale. Ça représente un peu plus de 100 millions. Puis après ça, tu as toutes les opérations d'embarquement, débarquement. Ça, c'est des gens qui soient restés à Québec avant d'embarquer dans leur bateau, et il y a aussi tout le chargement. Donc, à un moment donné, il y a du ravitaillement à faire. Donc, les bateaux se ravitaillaient à Québec, ce qui totalise 200 millions de dollars. Dans la province, c'est l'équivalent d'un milliard de dollars de pertes, vous l'aurez compris, en raison de cette saison de croisière qui sera tout simplement inexistante cette année, alors que ça allait très, très bien les dernières années. On battait record par-dessus record.
Puis juste à Québec, là, parce que là, ça s'additionne à toutes les autres pertes au niveau touristique qu'il va y avoir. Le port de Québec, c'était une chose avec les croisières, mais là, pensez aussi à tous les Américains, les Européens qui ne viendront pas cet été, les restaurants qui ne feront pas des affaires d'or encore. Il va avoir un impact énorme là, à Québec financièrement.
Oui, effectivement. Puis Mario Girard, quand l'annonce a été faite ce matin par le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, comme quoi on décidait de prolonger l'interdiction qui était initialement prévue pour le 1er juillet. On devait dire, après le 1er 1er juillet, il pourra y avoir des bateaux de croisière internationale. Finalement, on a donc prolongé ça ce matin au 31 octobre. Lui, il n'est pas tombé des nues. Il avait déjà eu des indications. Il savait qu'il y avait déjà au moins 50 % de la saison qui, même si on commençait là, le 1er juillet, qui était annulé parce qu'il y avait des grandes lignes de croisière qui avaient dit « on ne passera pas à Québec cette année ». Vous comprendrez, c'est difficile de remplir nos bateaux. Donc, on ne viendra pas à Québec, sauf que là, ça a mis en quelque sorte le clou dans le cercueil. Je vous inviterai à écouter Mario Girard.
Pour nous autres, c'est pratiquement juste une question de temps. T'sais, on est donc, c'est pas une surprise, c'est juste que c'est une grande déception, puis surtout parce qu'on pense à toute l'industrie touristique là, à qui on vient de donner un autre coup de marteau sur le clou là, en disant, regarde, on vous confirme qu'il n'y a personne qui va venir, donc il n'y a pas d'argent sur ces 210 millions-là d'argent qui sont dépensés dans la région par des croisiéristes et des lignes de croisière. On verra pas la couleur de ces 210 millions-là cette année. Donc, moi, je pense pas au port dans ce temps-là. Je pense vraiment à nos gens de l'industrie touristique, là, à qui je souhaite bon courage dans tout ça, là.
Hey, je comprends. Écoute, c'est tellement de gens qui sont impliqués, c'est tellement d'industries différentes qui sont liées finalement à l'industrie des croisières. Là.
Puis au niveau monétaire, pour le port, les croisières, là, c'est minime. Là. On pourrait penser que c'est un gros apport au niveau revenu, mais c'est très, très peu. C'est vraiment les opérations de transport de marchandises qui sont beaucoup plus payantes pour le port de Québec. Je vous inviterai à écouter à nouveau Mario Girard.
Oui, il y a un manque à gagner, mais les ports vivent pas nécessairement avec l'industrie des croisières. Puis, on le fait, on est très, très heureux de le faire. C'est une contribution à la communauté. Puis, mais c'est pas l'impact financier sur le port, c'est pas majeur. Là, c'est sûr qu'il va y avoir moins de revenus. C'est sûr qu'on a moins. Bon, on perd quand même des revenus, c'est clair. Mais c'est rien à comparer à toute l'industrie touristique. Puis la majorité des revenus quand même du port viennent pas des croisières. C'est un petit pourcentage de nos revenus qui sont des revenus de croisière. Donc, pour nous, c'est pas un dur coût financier. Là. Quand on pense à notre industrie touristique, on n'a pas à se plaindre de l'impact de ce qui arrive aujourd'hui.
Oui, c'est sûr que ça va être très, très difficile, sincèrement.
Et j'ai cherché à savoir, au niveau des autres revenus, transport de main, est-ce que c'est affecté par la pandémie? Ce que m'a dit Mario Girard, il dit les ports, on est un service essentiel parce que dans la chaîne logistique, on est important pour pouvoir que l'on reçoive des marchandises. Il dit c'est sûr qu'il y a certains secteurs, comme par exemple ce qu'il appelle le jet fuel, là, l'essence pour les avions. On comprendra qu'actuellement, il y en a pas vraiment qui se transbordent du côté du port de Québec, bien que le port de Québec était un endroit où il y en avait beaucoup, 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 notamment pour alimenter ici à Québec, mais du côté de Toronto. Donc là, il dit, c'est sûr qu'il y a certains secteurs qui vont moins bien. Il y en a d'autres que ça s'est maintenu, comme par exemple au niveau de l'acier. On a décidé aussi, le projet Laurentia, que le port de Québec, d'y aller peut-être un peu plus rapidement. Les partenaires ont mis ça un peu plus haut sur leur liste parce que ils voient ça comme un projet qui pourra aider après la crise. Donc, c'est un peu ce pourquoi on a accéléré ce projet-là. Maintenant, au niveau des croisières, si on revient à ça, c'est comment que ça va se passer du moment où on va recommencer? Et ça, c'est la grande question qui se pose actuellement dans l'industrie. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on a vu des situations un peu partout à travers la planète où il y avait des bateaux de croisière qui étaient coincés avec des gens à bord qui ne pouvaient pas débarquer. C'était problématique au niveau de la contagion. Ça se faisait extrêmement rapidement parce que ce sont des endroits où les gens sont dans des lieux communs assez fréquemment. Ouais. Sinon, ils sont isolés dans leur cabine et cloîtrés quasiment en quelque sorte là, quand il y avait l'épidémie qui sévissait sur les navires. Donc, j'ai parlé un peu de ça avec Mario Girard et je vous inviterai à écouter comment il voit la suite des choses.
Ils peuvent pas penser, on va attendre que le vaccin arrive puis on va faire comme... On va travailler avec la certitude que le vaccin sera là en 2021. Donc, si le vaccin n'est pas là en 2021, dans leurs hypothèses, ça veut dire qu'ils sont déjà en train de complètement se réinventer. On voit déjà des lignes de croisière qui annoncent des façons de faire complètement différentes, avec des mesures de distanciation extrêmement sévères sur les bateaux, des bateaux remplis à moins 50 % de la capacité pour permettre la distanciation. Pensez au buffet sur les bateaux, tu sais. En fait, C'est majeur comme changement opérationnel pour les lignes de croisière. Ça va avoir aussi un impact pour les ports. Pensons aux opérations, quand on va penser au débarquement avec des mesures de distanciation. T'sais, alors, tant qu'il n'y aura pas un vaccin, tant que le virus ne sera pas contrôlé d'une façon très certaine et qu'on n'en parlera plus, on n'aura plus cette crainte-là, écoute, tout l'opérationnel, la logistique, complètement là, à repenser au complet pour les croisières.
Ah non, puis Joe m'a dit de quoi, au prix que ça coûte une croisière, là, si t'es pour payer ce prix-là, vas-y pas à moitié, puis avec la moitié des activités ou des de l'expérience que tu peux pas vivre pleinement. Là. Fait que ça intéressera pas tant que ça. En tout cas, je parle pas pour tout le monde, évidemment, là, mais si moi, quelqu'un comme moi, mettons, là, qui ramasse son argent pendant des années pour avoir la chance, un moment donné, de faire une croisière qui est quand même très dispendieuse, je vais m'assurer que ce soit une occasion où je vais pouvoir vivre l'expérience pour de vrai. Là.
Et la tendance dans les dernières années, c'est d'avoir des navires qui étaient tout le temps plus gros. Là. Est-ce qu'on va assister à une tendance inverse où on va y aller vers des navires de plus en plus petits pour avoir peut-être un peu moins de personnes à bord des navires? C'est peut-être quelque chose que l'on verra dans les prochaines années. Mais bon, Mario Girard, lui, ce qu'il souhaite, c'est que ça reprenne rapidement, ici, bien évidemment, en ne négligeant pas la santé. Mais il dit, pour cette année, on va oublier ça, on va focusser sur les prochaines années. Et il espère que la Ville de Québec, et même il dit, la Ville de Québec est bien positionnée pour la reprise, pour la simple et unique raison que c'est considéré comme une ville qui est sécuritaire. Donc, il dit, on va mettre tous les efforts pour que les navires reviennent le plus rapidement possible, que l'on retourne avec des achalandages comme ceux que l'on connaissait dans les dernières années, soit plus de 200 000 croisiéristes par année ici à Québec.
Alors, c'est à suivre. On va espérer. On va se croiser les doigts, en fait, pour l'année 2021, mais même là, j'irais peut-être voir un petit peu plus loin là, pour être très, très optimiste.
Croisière,
là.
Je pense que c'est plus loin que ça.
Plus loin que 2021.
Ça va être dans les derniers. Ouais. C'est juste logique. Les tout inclus aussi, d'ailleurs. Ouais. Là. Si
évidemment.
Vous pensez,
oui, mais là, on parle seulement s'il n'y a pas de vaccin d'ici 2, 3, 4, 5 ans.
T'as raison.
Si on a un vaccin l'été prochain, là, d'après moi, les croisières vont reprendre plusieurs mois après, là, le temps qu'une majeure partie de la population soit vaccinée. Oui, c'est ça. Mais tout ce dont on parle présentement, c'est toujours dans l'optique où il n'y a pas de vaccin. Faut pas oublier
mais
ça.
Mais pas de vaccin, oubliez le tout inclus cet hiver. Là.
Ah oui, ça, on oublie ça.
Parce
je pense qu'effectivement,
buffets, on
oublie ça.
On oublie ça.
Jonathan, merci beaucoup pour l'entrevue. Et va-t'en pas dessus, Jonathan. Je vais faire une petite mise à jour d'une nouvelle que tu as couvert cette semaine. Honnêtement, c'est pas des bonnes nouvelles, par exemple. Je trouve ça plate. Vous vous souvenez du Rorqua Labosse qui avait été observé ici à Québec? Une journée plus tard ou deux jours plus tard, il avait été vu à Portneuf. Ensuite, on était en Mauricie avant-hier. Je me trompe pas où c'était
dans
hier.
Dans le coin de Trois-Rivières.
Et ce matin, il a été vu à Sorel, le Rorqua Labosse. Ça veut dire qu'il est vraiment dans la mauvaise direction. Il se dirige tout droit vers Montréal et il est pas du tout dans le bon sens, là. Fait que je trouve c'est triste parce que Dieu sait ce qui va arriver avec cette baleine-là. Elle n'est vraiment pas à la maison du tout, du tout. Mais juste pour vous informer qu'elle continue son chemin vers Montréal. Alors, c'est à suivre, mais comme on avait parlé à la dame du Grême il y a 2-3 jours en entrevue, c'est pas là qu'elle se posait à être. Là.
Non, c'est ça. Et plus elle s'en va vers Montréal, plus le fleuve est étroit, plus les risques de collision avec des navires sont augmentés.
Oh, c'est triste. J'aime pas ça. Je trouve ça bien plate. Là. Je sais pas à quel moment le Grême va décider d'intervenir ou pas. Ils nous ont bien expliqué qu'avant de faire une intervention, on doit mesurer tous les facteurs possibles dans l'équation. Et quand il est question d'intervenir avec une bête comme ça, souvent, malgré qu'on veut l'aider, on peut faire plus de mal que de bien sur le long terme. Fait que c'est pour ça que c'est compliqué de décider d'intervenir ou pas. Alors, on va continuer de suivre cette histoire-là. Merci beaucoup, Jonathan.
Au plaisir.
Il est 16h03.
FM 93, cœur de Québec. FM 93 fait bouger les choses. Fait parler Québec depuis 40 ans. FM 93, Québec. Jusqu'à 18h, vous écoutez Bouchard en parle.
C'est Bouchard en parle.
Avec Sylvain, Elisabeth Crête et Jean-Simon Puy.
Bouchard en parle au FM 93.
Bonheur de pointe à Québec en ce vendredi où les gens semblent quitter avec enthousiasme le lieu du travail pour retourner à la maison. Un peu plus tôt, il y a eu des incidents dans le coin du pont Pierre-Laporte en direction nord. Ça a créé un bon bouchon de circulation. C'est réglé. Dans le coin de l'avenue des Hôtels aussi, il y avait un problème. C'est réglé également. Henri IV en direction nord, c'est lourd à partir de Chauveau à peu près jusqu'à la chaîne de Sainte-Geneviève. En direction sud, c'est entre Capitale et Amel où c'est particulièrement lent. Capitale en direction est, vous ralentissez dès Robert-Bourassa et ça jusqu'à Pierre-Bertrand. Rive-Sud, ça se passe toujours bien. D'ailleurs, Rive-Sud, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de reprise réelle du trafic, ce qui est une bonne nouvelle pour nos amis. De Lévis, vous voyez autre chose, un ralentissement ou une entrave. Écrivez-nous au 25226 ou composez étoile 93-3.
Juste avant d'aller à la météo, on vient juste de parler de croisière avec Jonathan Bernard, notre journaliste. Et il y a exactement 3 minutes, j'ai reçu un courriel de Croisière AML qui annonce annonce qu'il y a feu vert au 1er juillet pour les croisières d'un jour, sous réserve des exigences de santé publique, bien sûr. Alors, vous savez, les fameuses croisières d'un jour, ben ça inclut, genre, aller observer les baleines à Tadoussac. Là. C'est un peu ça, une croisière d'un jour. Alors, le 1er juillet, on va avoir le droit d'en faire sous certaines réserves et sous certaines consignes. Alors, c'est peut-être pas de bonnes nouvelles pour les croisières qui sont vraiment des vacances, là, où on dort sur le bateau, mais au moins, les croisières d'un jour, ça va reprendre au 1er juillet. Pour la météo, ben, c'est encore une journée de canicule aujourd'hui. On ressent 36 avec le facteur humidex et c'est de la pluie ce soir et demain samedi. Dimanche, on devrait retrouver le soleil, mais c'est quand même 40% de possibilité d'averse qui est prévue. Et ce qui est particulier, c'est que ça va être toute une descente en termes de degrés. Présentement, on a 31 au mercure et dimanche, c'est 12 degrés qu'on va avoir comme maximum. Alors, à Québec, comme je vous l'ai dit, c'est 31.
Vos Portofino Québec et Sainte-Foy célèbrent leurs 25 ans en vous offrant 25% sur les plats de pâtes à emporter. Fettuccini au pesto, tortellini farci à la ricotta, penne arrabbiata. Commandez à portofino.ca et au téléphone. 25 ans, ça se fête en grand. À vos deux Portofino.
Vous avez envie d'aller magasiner de nouvelles sandales, de nouvelles chaussures pour cet été, des sacs à main, ben allez donc à la vente d'entrepôt chez Leclerc Chaussures. On a même un choix de bottillons et de bottes. C'est peut-être pas la saison présentement, mais c'est le temps de les acheter pour l'hiver prochain parce que c'est de gros rabais. Ça vaut vraiment le déplacement de venir à la grande vente d'entrepôt de Leclerc Chaussures. Évidemment, on a mis en place des mesures très sécuritaires pour assurer votre santé. Et si vous êtes un petit peu plus craintif, ben vous savez que c'est toujours possible de magasiner en ligne. Vous allez avoir accès à des rabais également. Alors, la grande vente de chaussures Leclerc, c'est dans plusieurs points de vente. Entre autres, ben, chez Leclerc Chaussures, au 1034 rue Cartier, du style et de la variété assurée. Sinon, on a Moi Mes Souliers aussi, au 1183 rue Saint-Jean. C'est l'incontournable boutique de chaussures pour femmes et hommes. Et sinon, Ricœur Québec, 1024 rue Saint-Jean, leclercchaussures.com.
RPM Rive-Sud vous fait profiter d'un vaste inventaire de véhicules récréatifs avec des marques telles KTM, Polaris, Yamaha, Kawasaki et Suzuki. Votre prochaine aventure vous attend. Venez rencontrer l'équipe RPM Rive-Sud à Lévis.
Cette semaine, c'est les offres 8-8 chez Métro. On vous fait économiser sur plein de vos produits préférés, mais faut faire vite, vite.
Les offres 8-8? Oh ben parfait, je vais chez Métro, vite, vite.
Vous faites bien, il y a des prix réduits 8-8 partout en magasin sur une foule de produits sélectionnés. Comme par exemple, les poitrines de poulet frais désossées sont à 3,88 la livre, le concombre anglais sans pépins est à 88 cents et le fromage sélection 400 grammes est à 3,88. C'est pour ça qu'il faut faire vite, vite.
Pour économiser avec les offres 8-8, Métro, c'est mon épicier d'ici.
Détails et conditions sur métro.ca.
Vous voulez effectuer une transaction immobilière en toute sécurité? Contactez Michel Ferland, courtier immobilier résidentiel Rémax Avantage. Il vous aidera à trouver la maison ou le condo adapté à votre budget en respectant les normes gouvernementales. Michel Ferland vous accompagnera dès le début jusqu'au notaire. Vous devez acheter ou vendre rapidement michelferland.ca pour des conseils judicieux, une expertise fiable, des économies et ce, en toute sécurité. Vendre ou acheter? michelferland.ca 418-832-1001 michelferland.ca.
Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent la boîte à surprise. Cuisse ou poitrine au choix du rôtisseur, servi avec tous les accompagnements à seulement 7,75 $ plus taxes au service à l'auto.
Bonjour, ici Saskia Thuo. Comme bien des Québécois, on n'a jamais autant apprécié le bonheur d'être à la maison et on a envie de lui donner de l'amour. Eh bien, avec leur garantie à vie, leur grand choix de modèles et le verre isotriple, les fenêtres isothermiques de chez Porte et Fenêtres Tremblay ont tout ce qu'il faut pour vous plaire et plaire à votre maison. Porte et Fenêtres Tremblay est la référence à Québec depuis plus de 65 ans. Passez les voir. Ils prendront soin de vous et de votre maison.
Steph Dupont, notre porte-parole, vous le confirme. La meilleure, c'est l'équipe McKinnon. Et elle est à la recherche de signaleurs routiers. Vous êtes à la recherche d'un travail à l'extérieur? Avec un salaire à partir de $18.54, c'est l'emploi estival de rêve. Vous êtes jeune retraité? Tanné d'être confiné? Cet emploi est pour vous. La formation est payée par l'employeur. Faites partie de l'équipe McKinnon. SignalisationMcKinnon.com. Signalisation McKinnon. MCKINNON.com.
Génacol est une entreprise québécoise qui offre depuis 20 ans des produits naturels éprouvés pour la santé articulaire. Découvrez la formule complète de Génacol Optimum qui contient 4 ingrédients actifs. Cette solution 4 en 1 régénère, lubrifie, soulage et protège les articulations. Génacol Optimum est offert en liquide et maintenant offert en comprimé. En rabais à seulement $24.99 chez Family Prix jusqu'au 3 juin. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
Génacol, tu me fais du bien.
Pour prévenir davantage la propagation du virus,
Il est fortement recommandé de porter un masque dans les lieux publics où la distanciation de 2 mètres n'est pas possible, comme les épiceries, les transports collectifs ou les commerces. La meilleure façon de protéger sa santé et celle des autres demeure le respect des mesures d'hygiène reconnues. Par exemple, se laver les mains régulièrement et garder ses distances. On continue de se protéger. Informez-vous sur québec.ca/masque. Un message du gouvernement du Québec.
Le FM 93 et le 47 félicitent notre ange de la semaine, Annick Thibodeau. Paramédic depuis 15 ans, elle est au front depuis le début de la pandémie. Elle travaille avec le sourire malgré la situation actuelle. C'est aussi une super maman. Vous côtoyez un ange? Parlez-nous de lui au fm93.com ou textez ANGE au 25226. Il pourrait remporter 250 $ du restaurant Le 47 pour déguster l'un de leurs réputés coffres gourmands. L'ange de la semaine, une initiative du FM 93. Une présentation du 47.